Alors donc, on reprend l'épître aux Corinthiens que l'on va continuer et on change complètement de sujet. Paul a répondu, pas à tout, hein, mais en tout cas aux questions que les Corinthiens avaient posées au sujet du mariage, des questions spécifiques hein, et du célibat. Et maintenant, il va répondre à une autre question et là, le sujet, c'est le sujet de la liberté chrétienne. En Jésus, nous sommes libres. Et même libre de faire quelquefois certaines choses que d'autres, selon leur point de vue, pourraient juger répréhensibles ou coupables, ou en tout cas, ils ne sont pas en paix avec leur conscience concernant cette chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous identiques et on est différents dans notre conscience. Hein, on a une sensibilité qui est différente. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois me priver de faire quelque chose ? Ou bien est-ce que bien, j'y vais, je me sens libre et je le fais. Et cette question de la liberté chrétienne, Paul la traite sur les trois chapitres qui suivent, 8, 9, 10. Et je vous avoue que donc j'ai lisé 8, 9, 10, je me dis oh, c'est franchement bête, quoi, parce que c'est 73 versets, quand même bien riche, hein, et il faudrait 4 heures pour le faire d'affilée, mais en tout cas, ça serait l'idéal. Parce que ça donne une vue d'ensemble. Hein. Et d'ailleurs, je vous invite à lire ces trois chapitres chez vous. Vous verrez une vue un peu plus globale de tout ce que Paul veut enseigner. Donc, on verra, on va l'échelonner, le couper en morceaux. Parce que ces trois chapitres forment un ensemble qui est dans l'autre ensemble que forme l'épître aux Corinthiens. Donc, le thème général ici, c'est la liberté chrétienne. Et être un enfant de Jésus, un fils de Dieu, c'est pas vivre dans une vie forcément qui est étriquée, une vie qui est faite que de privations, que de règles à respecter. La vraie liberté en Jésus-Christ, c'est autre chose. Hein. Ça signifie pas non plus qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de commandements, et je peux faire maintenant tout ce que je veux. Hein. Au contraire, la Bible, elle est remplie de commandements, de lois, et plaire au Seigneur, eh bien, c'est aussi obéir à ses commandements, c'est se soumettre. Mais si Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions », donc recevez mes instructions, bah, obéissez à mes commandements, juste après, il dit « Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Donc, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Et pour ceux qui se reposent en lui par la foi, eh bien, voilà, la foi nous fait triompher et nous rend victorieux et nous aide à ne pas regarder les commandements comme étant un fardeau lourd et trop pesant. Donc, il y a des commandements et puis il y a une liberté chrétienne. Et on n'est pas, comme je le disais, des robots qui sommes identiques en tout point et on fait tous de la même manière et on a tous la même pensée. Si le Seigneur était, et il est, rigide, par exemple, en ce qui concerne la pureté, en ce qui concerne la morale, en ce qui concerne le pardon, par exemple, on ne peut pas dire « Oh ben moi, c'est pas grave, je peux vivre dans le concubinage. » Non, la Bible le dit. Ou bien « Oh, moi, je pardonne pas. » Non. Dieu nous impose, hein. Il y a des choses que Dieu nous impose. La règle, elle est pour tous, concernant ces sujets, la même. Mais Dieu peut être aussi souple concernant d'autres points qui sont des points plutôt secondaires, annexes. Ce qui veut dire que si la Bible ne condamne pas une chose explicitement, eh bien peut-être, ça fait partie de la liberté chrétienne. Et là, eh bien, il y a une souplesse. C'est pour ça qu'il y a une vraie variation, hein, même parmi les enfants de Dieu. Et quand vous regardez le monde avec toutes ces langues, tous ces peuples, toutes ces cultures différentes, on se dit, mais c'est vraiment une variété incroyable. Hein. Eh bien, dans l'Église, il peut aussi y avoir des nuances qui fait que voilà, le corps de Christ est varié. Il est riche, hein. C'est aussi ce qui fait toute sa richesse. Hein. Certains voient les choses d'une manière, d'autres les voient plutôt d'une autre manière. Certains se sentent libres de faire une chose, l'autre disent « Non, non, surtout, on ne peut pas faire ça. Hein. » Non, non. Mais finalement, Dieu aime la chose comme cela. Il l'accepte comme cela. Il laisse son corps varié et libre. Il ne veut pas forcément uniformiser l'Église et que tous, eh bien voilà, c'est selon le même modèle. Mais le fait de comprendre qu'on est libre de faire une chose, ça ne signifie pas qu'on puisse user librement de sa liberté. Ça semble un paradoxe ce que je vais dire, hein. Mais on ne peut pas forcément, du fait qu'on se sente libre de faire quelque chose, eh bien, pouvoir le faire comme on veut et quand on veut. Imaginez quelqu'un qui dise « Oh, moi, je suis libre dans le Seigneur. Je peux faire ce que je veux. » Et ce n'est sûrement pas une pensée légaliste, hein, étriquée qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux. Hein. J'ai une autre vue. Dieu dit non. Stop. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a une liberté, mais la liberté, elle a des limites quand même. Elle a une limite. Hein. Et parfois, on s'impose à soi-même des limites. Et notamment quand on se retrouve avec d'autres personnes, des frères et sœurs, qui, eux, peut-être n'ont pas la même sensibilité. Et donc, Paul va mettre en garde, dans ces passages, ceux qui se sentaient un petit peu trop libres. Et puis, ils faisaient ce qu'ils voulaient, sans trop se soucier de ceux qui étaient à côté d'eux. Alors, on va lire maintenant 1 Corinthiens 8, et puis après un petit passage d'1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc après, il continue dans le chapitre 9, il est dans sa lancée, mais il va développer un peu plus, et dans d'autres aspects, l'idée de la liberté. Après, il dit « Ne suis-je pas libre ?» etc. Il continue. On va sauter ce passage, et on va aller chapitre 10 et verset 23. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors j'aimerais dégager plusieurs principes de cette lecture. Donc le problème évoqué ici, c'est le fait de manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles. Alors pour nous, au XXIe siècle, on se dit en quoi ça me concerne, hein? On n'est plus dans les abattoirs à sacrifier les viandes aux idoles. Hein? En tout cas, pas dans la plupart des abattoirs qu'on a en France. Hein? Mais il y a quand même des principes qui ressortent de ce sujet qui permettent d'être appliqués à d'autres domaines de la vie chrétienne, et quel que soit le siècle où nous sommes. Donc les chrétiens de Corinthe avaient posé une question à l'apôtre Paul, et peut-être la question était, est-ce qu'on est libre de manger de la viande sacrifiée aux idoles ? À l'époque, sur les marchés, on pouvait certainement trouver de la viande cachère, donc qui était vendue par des juifs, et puis de la viande, voilà, toutes les autres viandes qui étaient, elles, sacrifiées à des idoles. Ça pouvait être Apollon, Jupiter, Mercure, je ne sais pas. On sacrifiait l'idole et puis après, eh bien, on la vendait sur le marché. Et la question que les chrétiens se posaient, c'est « Mais est-ce que je ne suis pas en train de pécher, finalement, si je mange une viande qui a été comme vouée, offerte à un faux dieu ?» Alors, eh bien, Paul dit non, on est libre d'en manger. Hein, et il dit « Nous avons tous la connaissance. » Dieu vous a donné une compréhension des choses qui vous permet d'en manger. Et alors, il va dire, versets 4 à 6, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde, car il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, c'est vrai, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Et c'est vrai que la vérité concernant les idoles de ce monde, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Seigneur que le Seigneur. C'est lui qui règne, qui est le Créateur de toutes choses. Maintenant, c'est vrai que derrière ces petits dieux, eh bien, il y a des démons, il peut y avoir des démons, hein. C'est sûr que quand on offre à une idole, eh bien, il y a des démons qui poussent à faire ce genre de choses et finalement, on peut offrir une offrande à un démon qui est derrière. Mais la réalité, c'est que Dieu est au-dessus de tout ça et que tout lui appartient. L'offrande lui appartient, l'animal lui appartient, le bois lui appartient, le feu lui appartient, tout lui appartient. Et donc, il n'y a rien à craindre. Le chrétien n'a pas à craindre de manger une viande sacrifiée même à une idole. En 1 Corinthiens 10, 25 et 26, nous lisons « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous encourir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. » Tout appartient à Dieu. Donc, il n'y a pas un lien particulier si vous mangez de cette viande. Vous n'allez pas vous lier au diable ou être sous la malédiction. Non, tout va bien. Dans une autre épître, Paul dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Voilà. Dieu dit « Allez-y, vous pouvez manger librement de tout ce que je vous ai donné sur la terre. Vous priez, Seigneur bénis mon repas et le Seigneur bénit votre repas. » Et donc vous n'avez pas à craindre ce genre de choses. Imaginez que vous vous retrouvez dans une jungle, je ne sais pas où, en Asie ou ailleurs, et vous êtes affamé parce que ça fait 4 jours que vous avez marché, et vous trouvez un hôtel là, avec des offrandes et des fruits. Est-ce que, eh bien, on est libre d'en manger? Peut-être nous qui sommes ici, on dirait, bon, ben, voilà, c'est tout, hein, j'en mange. Hein. Mais quelqu'un de là-bas, il ne le verrait peut-être pas de la même manière, hein, lui qui est dans le pays. Et pourtant, Dieu, vous pouvez manger. Il dit, vous êtes libre. Mais, et il y a un mais. La liberté chrétienne, elle ne signifie pas qu'on puisse faire exactement ce que l'on veut et quand on veut. Regardez 1 Corinthiens 8 et verset 7. Il dit, mais, cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Et on voit qu'on n'est pas tous égaux au niveau de la conscience. Certains peuvent avoir, comme la Bible dit, avoir une conscience qui est faible. dites faible, entre guillemets. Et la conscience, elle est une bonne chose. Dieu nous l'a donnée pour nous garder, hein, et nous éviter de faire le mal. Mais la conscience, elle peut être aussi formée ou déformée selon plein de facteurs, de choses que l'on peut vivre. Ça peut être selon la famille où nous sommes nés, dans la culture aussi où nous sommes nés, selon l'éducation que nous avons reçue, selon les personnes que nous avons fréquentées et qui nous ont influencées, selon l'enseignement que l'on a reçu, hein, si on reçoit un enseignement tout le temps, ou l'absence d'enseignement, selon les choix aussi que nous avons faits. Un choix en entraîne un autre, et puis petit à petit, on peut aussi se forger, hein, comme ça. Ou bien, selon aussi les années de vie chrétienne, de marche avec le Seigneur, de lecture de la parole de Dieu. Et en fonction de tous ces paramètres, la conscience peut être différente entre un chrétien et un autre chrétien. Et on peut être, en quelque sorte, prisonnier de sa conscience, ne pouvant pas faire une chose parce que la conscience nous en interdit. Si on le fait tout de suite, mais on a cette conviction, ce que l'on fait n'est pas bien. Dieu n'approuve pas ce que tu es en train de faire. Et hop, ça nous arrête et on se dit non, pas plus loin. Et certainement, parfois, c'est nécessaire de réajuster sa conscience, hein, parce que on a vécu plein de choses, on peut être déformé, hein. Et c'est ce qui se passe quand on se convertit à Jésus-Christ. Hein? Petit à petit, on lit les Écritures. Hein? Et puis, oh mince, je fais ça. Et Dieu dit qu'il ne faut pas le faire. Hein? Alors, eh bien, hop, on réajuste. Hein? Parce que notre conscience a été déformée par notre vécu. Quand je me suis converti à Christ, donc juste avant, je menais une vie de patachon pour faire soft. Et c'était presque sans loi, sans règles. Hein. J'avais fait sauter les verrous. Et quand je fais donner ma vie à Jésus-Christ, il m'a sauvé. D'un seul coup, eh bien, je me suis replongé je me suis plongé dans la Bible. J'ai vu la loi de Dieu. J'ai vu que Dieu disait qu'il fallait oublier à la loi des hommes, etc. Et j'étais tellement parti à un extrême que pouf, plom, je suis devenu, mais alors très rigide. Hein. Au point qu'un jour, j'étais devant un petit bonhomme rouge, un passage clouté. Je me dis, est-ce que je passe ou je passe pas? Alors, ça peut paraître ridicule, mais vous savez, des fois, quand on est avec ses enfants, on s'arrête, hein, et on attend, hein, parce qu'ils sont les premiers à vous dire, eh, c'est toi qui dis qu'il ne faut pas passer, hein, c'est rouge. Hein. Et là, je me souviens, hein, un jour, être sur une place déserte, et il y a ce petit bonhomme rouge, et à me poser la question, mais est-ce que je passe ou je passe pas? Et la conscience, elle peut partir dans des extrêmes. Elle peut devenir hypersensible, ou bien elle peut devenir vraiment... elle laisse faire tout. Hein. Elle est comme endormie, éteinte. Alors certainement, il faut que la conscience, elle soit bien ajustée, bien réglée par le Seigneur. Et c'est en lisant la parole de Dieu. On lit les Écritures, et Dieu, eh bien voilà, il réajuste les choses, et il nous donne d'avoir un jugement qui est sain, équilibré, juste. Et parfois, on se retrouve avec des frères et sœurs qui sont plus sensibles concernant un sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu ne dit pas qu'il faut essayer de les changer. Essayer de dire, mais non, hein. Et je vais t'apprendre ce que c'est la liberté chrétienne, moi. On ne voit pas ça, hein. Moi, je ne trouve pas ça dans les Écritures. Et dans notre passage, Dieu s'adresse ici, ailleurs il s'adresse aux autres, mais ici, il s'adresse essentiellement à ceux qui sont, entre guillemets, forts et qui ont une liberté pour faire quelque chose. Ici, c'est manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et c'est à eux, premièrement, qu'il s'adresse. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit tout d'abord que la liberté chrétienne est subordonnée à l'amour. À l'amour. Regardez versets 1 à 3, chapitre 8, versets 1 à 3. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir la connaissance qui nous permet d'avoir une conscience bien réglée, équilibrée, juste et libre dans son jugement. Mais le plus important, c'est d'avoir l'amour qui édifie. Et le plus important, ce n'est pas de se sentir fort, parce que ben, nous, on a une certaine liberté de faire telle ou telle chose, mais encore une fois, le plus important, c'est d'aimer. C'est ça qui trône au-dessus, l'amour. Il dit, ce genre de connaissance, la connaissance de savoir que je suis libre, hein, il dit, elle s'enfle, hein, elle se gonfle d'orgueil. Moi, j'ai compris. Moi, je ne suis pas comme eux. Hein. Ils sont comme ça. Hein. Moi, j'ai compris. Je sais ce que c'est que de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible, hein? Et il faut essayer de transposer à une situation peut-être plus actuelle que des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que si on regarde autour de soi, on va toujours trouver des chrétiens, ça existe toujours, à moins d'être vraiment à un extrême, hein, on va toujours trouver des chrétiens qui semblent plus légalistes, plus étroits, plus voilà, coincés, hein, on va dire. Et ils ne peuvent pas se défaire de ça. Même s'ils essayaient, ils auraient l'impression de pécher contre Dieu. Et Dieu n'attend pas à ce que, eh bien, ils aillent dans le sens où je vais désobéir consciemment à mon Seigneur. Hein. Et la pire des choses, ça serait de les mépriser. Et dire non, ils n'ont rien compris. Si on a cette attitude, Dieu nous dirait, et je reprends une autre parole de Romains 14, il dirait, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? Est-ce que c'est ton droit de juger ? Non ? Laisse-le. Dieu les accepte, Dieu les aime. Pareil. Et Dieu nous dit, il faut les aimer. Paul dit ailleurs, accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Ne rentrez même pas dans le sujet. Et j'aime bien prendre l'exemple du vin, parce qu'il y a vraiment un contraste dans les chrétiens évangéliques. Notamment, bien sûr, quand on passe outre-Atlantique, hein, de l'autre côté, où là, le sujet est vraiment sensible à cause de leur culture, à cause de leur histoire, de l'histoire du pays, hein, vraiment sensible. Et pour nous, eh bien, on va peut-être se dire, oh, mais il y a des consciences faibles, hein, sur ce point-là. Et même, on a reçu l'Évangile pour beaucoup par l'Amérique, hein. C'est des frères et sœurs des États-Unis qui sont venus, et parfois ils ont aussi bien passé hein, leur sensibilité sur ces choses. Donc on peut trouver aussi des personnes qui sont sensibles sur ce sujet-là, même en France, des Français. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut forcer ces chrétiens à leur faire comprendre qu'ils sont libres. Ils ont le droit de boire un verre de vin s'ils veulent. Pourquoi se priver ? Dieu dit simplement, et premièrement, le plus important, c'est de les aimer. Les aimer. Aimer mon frère, aimer ma sœur. C'est bien d'avoir de la connaissance, de savoir qu'on est libre de faire une chose, mais le plus important, c'est d'aimer. D'aimer Dieu, et donc d'aimer par voie de conséquence mon frère, et d'aimer ma sœur. Paul dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et ce que Dieu recherche chez nous, c'est l'amour. Il regarde, il cherche qui aime, qui m'aime et qui manifeste l'amour. Dieu ne se soucie pas de qui est le plus libre. Non, qui aime. C'est ça le plus important. Verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et en disant cela, Paul nous dit que la liberté chrétienne ne change rien à la spiritualité. C'est la deuxième chose qu'on peut relever, hein. La liberté chrétienne ne change rien à la spiritualité d'une personne. Et ce n'est pas de manger une viande sacrifiée à une idole ou de ne pas en manger qui va rapprocher ou éloigner de Dieu dans la mesure où on suit sa conscience. Le Seigneur ne va pas être plus proche de cette personne ou plus loin. Non, ça ne changera rien. Et c'est vrai qu'on peut trouver par exemple des personnes qu'on va trouver peut-être nous très légalistes et très étroits, mais vraiment proches du Seigneur, très proches du Seigneur. Et de l'autre côté, on va peut-être trouver des personnes qui sont vraiment libres, mais qui sont aussi très proches du Seigneur. Comme on peut trouver des personnes légalistes, et derrière, eh bien, toutes ces lois, toutes ces règles, ça cache, hein, parce qu'on peut se contenter d'obéir à des lois. Et finalement, l'amour pour le Seigneur, il est bien faible. Hein. Ça peut cacher, finalement, un manque d'amour pour le Seigneur. Comme une grande liberté peut en fait cacher un laxisme et un manque d'amour pour le Seigneur. Et oh, moi, je fais ce que je veux. Hein. Donc, voilà. Et Dieu aime tout le monde. Il aime l'un, il aime l'autre. Et il veut qu'on s'aime les uns les autres. Et à l'époque de Paul, quelqu'un qui était là en train de repousser l'idée de manger une viande qui était sacrifiée à Apollon, il était autant aimé et autant agréé qu'un autre chrétien qui était en train de manger la même viande sacrifiée à Apollon dans sa maison. Mais en vivant selon leur conscience, ils étaient en paix, en paix. Et c'est ça le plus important. Et Paul s'adresse encore à ceux qui sont considérés comme forts. Regardez versets 9 à 12. Il dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Et la liberté chrétienne ne doit pas être une occasion de pécher contre son frère et donc pécher contre Christ. Parce que si on ne se soucie pas des autres et on fait comme on a envie, peu importe avec qui on est, eh bien, on va peut-être pousser quelqu'un dans le péché. Il peut y avoir deux choses qui se produisent. La première, c'est que la personne est entraînée par eh bien, ce qu'elle considère comme un péché à le faire elle-même. Ou la deuxième chose, c'est qu'elle est scandalisée. Scandalisée dans son cœur. Alors, on va voir ces deux choses. Premièrement, la personne est entraînée à faire ce qu'elle considère comme étant quelque chose de mal. Et c'est sûr, une personne peut se dire « Oh ben mince !» Il le fait, ben moi aussi je peux le faire. Et puis pourquoi pas, tiens. Et puis je vais le faire, tiens. Et puis en le faisant, elle est vraiment pas bien, quoi. Elle lutte contre sa conscience qui lui dit tu es en train de mal faire, de désobéir à ton Dieu. Elle est convaincue que ça ne plaît pas au Seigneur, mais elle le fait parce qu'elle est entraînée en voyant quelqu'un le faire. Dans l'Épître aux Romains, Paul parle du même sujet, il dit « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et donc, ce serait coupable d'entraîner quelqu'un à faire quelque chose que, selon lui, il pense que ce n'est pas une bonne chose. Ça ne plaît pas au Seigneur. Imaginez un frère qui est convaincu que boire est un péché. Et je vous assure qu'il y a des frères qui sont convaincus que boire un verre de vin c'est coupable devant Dieu. Hein? Je vous en... Hein? Non, Mohamed. C'est pas la réaction qu'il faut avoir. Peut-être qu'on est malade, nous, sur certains sujets. Hein? Et on les voit pas. Et d'autres le voient. Ils disent, mais ça va pas, lui. Hein? Et non, 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 non. Est-ce que ce serait bien de lui proposer un verre? Ou de boire devant lui en disant, ah, ben c'est bon, tu sais, tu devrais... Non, hein. Et là, il nous dit, mais et le frère faible périra par ta connaissance, c'est-à-dire il sera peut-être entraîné à faire quelque chose qu'il estime mauvais. Alors je prends l'exemple du vin parce qu'on reste dans le domaine de la nourriture, mais peut-être on peut l'appliquer à plein d'autres choses. Par exemple, au fait d'écouter certaines musiques. Vous savez que si on remonte dans le passé, autrefois, le piano, c'était un instrument vu diabolique. Ah oui, oui, oui. Et il y a encore aujourd'hui des conservateurs hein, qui pensent qu'on ne devrait pas utiliser d'instruments mécaniques et que le seul instrument qui est louable, c'est la voix. Et donc, ils chantent dans leur assemblée a cappella, c'est tout. Vous imaginez ça? Et donc, à une certaine époque, le piano, on voyait ça comme mauvais. On ne voulait pas l'introduire dans les assemblées. Complètement à proscrire. Est-ce que nous, on ne dirait pas, mais vraiment, conscience faible, hein? C'est incroyable. Nous qui apprécions aujourd'hui le piano. Est-ce que ses frères étaient moins spirituels? Non. Est-ce que il fallait à tout prix les forcer à changer de conviction? Non. Est-ce que ça aurait été bien de jouer un de leurs cantiques au piano en les incitant à... Non. Non. Et l'important, ce n'est pas de chercher à faire ce qu'on veut, comme on veut, parce qu'on est libre. L'important, c'est être en communion avec Dieu, soi, et respecter son frère, sa sœur, et l'aimer. Et une autre chose qu'on pourrait faire, si on ne respecte pas ceux qui nous entourent, c'est scandaliser son frère ou sa sœur. Au verset 13, il dit « C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Et donc, l'amour pour Dieu et l'amour pour mon frère devraient me pousser à renoncer même à ma liberté. Et c'est très fort ici, hein? C'est quelque chose, renoncer à sa liberté, c'est quelque chose. Dieu dit par la bouche de Paul, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. Hein, incroyable. Donc je vais sacrifier, je dirais, mon petit plaisir pour le bien de mon frère, pour le bien de ma sœur. Je ne veux pas qu'il soit scandalisé ou choqué ou que sa conscience faible soit blessée. Et il arrive que dans des églises, il y a une division pour des petites choses qui pourraient se régler s'il y avait l'amour, hein, et si, eh bien, voilà, il y avait un désir de ne pas blesser l'autre. Hein, et voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, on revendique sa liberté chrétienne. Je suis libre. Et tout s'effondre. Dans Romains, il est écrit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et donc, on est poussé à suivre Jésus qui ne cherchait pas ce qui lui plaisait. Est-ce que nous sommes capables de renoncer à un petit plaisir pour le bien de mon frère ou de ma sœur. 1 Corinthiens 10, 23 à 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alors oui, je suis libre. Oui, je peux tout faire, hein, dans ma liberté, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va édifier le corps de Christ, hein, ou finalement ça n'apportera rien, ou bien c'est simplement pour mon plaisir personnel? Ne plus chercher son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. En général, on sait très bien quel est notre intérêt. On sait, mais mon intérêt c'est ça, hein. Et j'aimerais bien qu'on se soucie un peu plus de mon intérêt. Mais par contre, l'intérêt de l'autre, hein, on a tendance parfois à l'occulter. Et Dieu dit, mais Christ n'a pas cherché son intérêt. Donc, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et si le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, hein, comme dit la parole de Dieu, néanmoins, on peut voir par l'attitude d'un enfant de Dieu, hein, s'il est en train de glorifier son Seigneur aussi par le manger et par le boire. Est-ce qu'il est en train de rendre gloire à Dieu? Et la question qu'il faut sûrement se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui honore, qu'est-ce qui glorifie davantage le Seigneur? Est-ce que c'est dans cette situation d'user de ma liberté ou c'est de m'abstenir? Moi qui ai de la connaissance, quel est le plus important? Mon frère ou ma liberté? faut toujours se poser la question. Et si c'est mon frère, bien, alors à ce moment-là, on abandonne sa liberté, même si c'est momentanément, parce qu'on ne veut pas choquer, scandaliser. Mais Paul va même un peu plus loin, parce que là, on est en train de parler de ne pas scandaliser un frère. Mais regardez ce qu'il dit, versets 32 et 33. Il dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Ce qui signifie qu'il nous pousse même à être prêts à sacrifier notre liberté pour quelqu'un de l'extérieur. Ce n'est même pas un frère. Mais on n'a pas envie de choquer, alors eh bien même on est capable de se priver et de voilà, mettre de côté notre liberté. Ça fait réfléchir, hein? Ça va loin en fait, le fait de pouvoir s'abstenir d'une liberté. Alors on va creuser davantage ce dernier point la prochaine fois, mais pour ce matin on peut retenir une chose, c'est que si notre liberté elle est précieuse, elle n'est pas plus importante que l'amour pour nos frères et sœurs. C'est ça qui est le plus important et qui doit être mis en avant. Et j'aimerais terminer simplement avec deux citations de Charles Rochedieu. Première citation, « Plus on est vraiment libre, moins on se sent libre de jouir de sa liberté au détriment des autres. » C'est beau, hein? C'est bien dit ça. Hein? On la relit, « Plus on est vraiment libre, moins on se sent libre de jouir de sa liberté au détriment des autres. » Et celui qui mûrit, qui avance dans la vie chrétienne, ben, sa maturité, elle doit l'amener à se mettre au niveau des autres. Hein, et pas, sinon, il n'est pas mûr. Hein, il manque de maturité à ce moment-là. C'est ça qui prouve la maturité. Ensuite, deuxième citation. Même mal éclairée, toute conscience qui se respecte mérite le respect. C'est fort aussi, hein? Si c'est un frère, il est faible. Ben, il mérite que je le respecte et que je l'aime comme il est. On va s'incliner dans la prière.